Je me laisse comme il est, sinon je vais essayer de me revenir un peu. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la grève féministe de m'avoir invité. Et je suis très contente donc, de pouvoir venir présenter cet ouvrage que j'avais coordonné avec Pam Gallo, qui est historienne, qui s'excuse de ne pas être là ce soir. L'ouvrage, donc, c'est un ouvrage qui vise en fait à saisir un moment dans l'histoire des mobilisations féministes, avec l'idée qu'il y a un nouveau cycle de mobilisation, qu'on appelle souvent le mouvement MeToo, le mouvement MeToo, mais en tout cas un moment de renouvellement des mobilisations féministes très fort, qui touche beaucoup donc, la question des violences, donc la question des violences sexistes, des violences de genre est souvent centrale en fait, dans ce cycle de mobilisation, et qui porte aussi, qui traite aussi d'autres questions, notamment les questions de travail salarié, non salarié, ça a été dit tout à l'heure, la question de la justice procréative, l'accès aux droits, plus généralement. Donc, c'est un renouvellement des mobilisations féministes, mais qui s'appuie aussi sur des motifs de mobilisation assez anciens, dont le travail, les violences, puisque la question des violences n'est pas apparue avec MeToo, mais était déjà traitée dans d'autres mobilisations féministes dès les années 70. L'enjeu aussi, c'était de montrer donc en fait la dimension internationale de ce renouvellement des mobilisations, en cherchant à souligner à la fois des traits communs au contexte international et puis aussi de souligner des spécificités locales, politiques, sociologiques, historiques. Donc d'abord dans les traits communs, c'est la séquence historique en fait. Que ce renouvellement souligne. Il y a des débats historiographiques autour de la manière dont on envisage les périodes de mobilisation féministe dans l'histoire, avec une première, ce qu'on appelle, on dit souvent la métaphore de la vague, pour souligner des cycles de mobilisation féministe. La première vague, ce serait celle qui commencerait au XIXe siècle et qui porterait en fait sur le droit de suffrage des femmes. Et donc, qui s'étend en fonction des contextes, justement, d'un moment où les femmes arrivent à conquérir le droit de vote. La deuxième vague, c'est celle autour du mouvement de libération des femmes, du MLF, dans les années 60-70, avec certains enjeux très forts autour de l'intimité. Un des slogans phares de cette deuxième vague, c'est le privé et politique. Et donc, c'est par la politisation des questions privées que ce mouvement s'est créé. Donc, c'est là qu'apparaît notamment la question des violences. Donc, c'est aussi des mobilisations qui sont très centrées sur l'accès à l'IVG, l'accès à la contraception. Et donc, d'autres questions ont été posées, donc, dans celle des violences. Puis après, il y aurait une troisième vague. Et c'est là où les historiennes, bon, moi je ne suis pas historienne, mais Fanny Palade, j'en profite pour écorcher un peu sa discipline. Mais il y aurait un peu des débats autour de la troisième vague des féministes. Est-ce qu'il y aurait donc une troisième vague, sans doute dans les années 90-2000, avec plutôt l'idée d'une mise en cause en fait, du sujet femme et de l'unité, de l'homogénéité du sujet femme, et donc la volonté de montrer la diversité du sujet de mobilisation et d'interroger ce sujet politique. En soulignant justement le fait que, au sein du MLF, le sujet politique qui était porté, ben, c'était souvent incarné par des femmes blanches, de classe moyenne supérieure, hétérosexuelles, etc. Et que ça invisibilisait en fait les autres composants de ces mobilisations féministes. Et puis, donc, la quatrième vague, en fait, ce serait celle qui arriverait justement autour de ce moment où tout, et donc de ce renouvellement international autour de la question des droits des femmes et de l'égalité. C'est un contexte donc qui est particulier aussi parce que par rapport à la deuxième vague du féminisme, là il n'y a pas trop de vague, non, et bien de fait, on est dans un contexte spécifique où beaucoup d'États reconnaissent la question de l'accès aux droits. Et la question de l'égalité entre les femmes et les hommes a été portée depuis les années 70 par les organisations internationales et supranationales, notamment l'ONU, qui a mis en place, voilà, à partir des années 70-75, des conférences mondiales sur les droits des femmes, et qui a porté la question de l'égalité. C'est un moment, en fait, de reconnaissance aussi de la question de l'égalité et des droits des femmes, mais qui souligne aussi les limites, justement, de l'accès à ces droits, puisque s'il y a une reconnaissance dans certains domaines, enfin, pas partout, mais de l'accès, enfin, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et une reconnaissance juridique de l'égalité entre les femmes et les hommes, disons, de l'égalité de genre, eh bien, il persiste des inégalités, et puis persiste aussi l'invisibilisation des minorités de genre, et la diversité, encore une fois, des expériences et des conditions de vie des femmes et des minorités de genre. Donc c'est ce contexte-là de remobilisation internationale des militants féministes et des militants féministes, et puis à la fois donc, ce contexte spécifique où l'État et des organisations internationales reconnaissent cette problème. Donc l'idée aussi, au-delà de la volonté de saisir un peu cette séquence historique, c'est aussi de chercher un peu des logiques d'organisation et de mobilisation qui pouvaient apparaître comme étant communes, avec l'idée donc qu'il y a un renouvellement militant qui passe aussi par un renouvellement générationnel, c'est-à-dire des militantes féministes qui s'investissent pour des questions d'égalité, qui pour certaines d'entre elles sont ce qu'on appelle un peu, de façon assez moche, des primo-militants, c'est-à-dire c'est le premier investissement politique autour de la question des féministes. Une autre question qui a été beaucoup traitée, beaucoup visibilisée, c'est l'usage des réseaux sociaux, qui offre une force de frappe assez importante, notamment au niveau international, pour rendre visibles les enjeux, pour rendre visibles les mobilisations, les actions, etc. Et qui, de fait, reconfigure aussi la manière dont on milite. Et puis, un autre enjeu qu'on voulait souligner, eh bien, c'était l'importance de la rhétorique intersectionnelle, c'est-à-dire de cette question aussi de diversité des conditions de vie, de la diversité, de la multiplicité des rapports d'oppression, voilà, qui génèrent des expériences et des conditions de vie différentes, et qui mettent en cause l'unité, l'homogénéité des sujets politiques. Un autre point qu'on voulait soulever, c'était donc que ce sont des mobilisations autour des enjeux d'égalité de genre, mais ce sont des mobilisations, et ça c'est pas tellement nouveau du point de vue de l'histoire du féminisme, mais qui souvent se situent avec et contre d'autres mouvements sociaux. Dans les années 70, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le mouvement 68, il y a des jeunes militants qui s'investissent dans les organisations politiques, dans les mouvements étudiants, etc. Et puis, en fait, ou aux États-Unis dans les mouvements antiracistes. Et puis, à un moment donné, quand elles posent la question de l'oppression qu'elles subissent en tant que femmes, ben, on leur dit, donc on est à la cuisine, grosso modo. J'exagère un peu, mais c'est grosso modo ce qui s'est passé. Et là, en fait, donc c'est aussi à travers cette expérience de politisation dans d'autres mouvements sociaux, que les militantes elles vont redéployer leur savoir-faire militant, leur savoir, au sein des féminismes, en posant comme un enjeu central l'oppression de genre, la domination masculine. Et en fait, ce qu'on a montré, c'était aussi que il y avait un peu un phénomène similaire qui s'opérait, puisque ce renouvellement militant au niveau international, il était aussi très souvent ancré dans d'autres mobilisations, notamment des mobilisations contre l'autoritarisme de l'État. Ça a été le cas, par exemple, en Égypte, au moment des travaux arabes. Et puis, il y a un témoignage notamment de féministes algériennes qui, au moment du Irak, justement, en 2019, donc ont voulu faire un carré et se sont vus opposer une levée de bouclier de la part des militants du Irak. Donc le livre, c'est un livre qui n'est pas strictement académique, on est deux chercheuses, mais c'est un livre qui cherchait à la fois à proposer une analyse de cette séquence historique, ces mobilisations féministes, à travers notamment des témoignages de militantes, des entretiens, etc. Et donc c'est un livre qui propose 23 récits de mobilisation dans différents pays du monde, ce qui est un peu gênant à présenter parce que c'est un livre qu'on a coordonné, qu'on n'a pas rédigé toutes les deux, donc ni Fanny ni moi ne sommes spécialistes de tous les contextes qui sont évoqués dans le livre, C'est vrai que si vous posez une question hyper pointue sur un contexte spécifique, il est fort probable que je sois incapable de vous répondre. Mais voilà, ça fait partie aussi de cette volonté un peu de rendre visible la diversité de ces contextes locaux inscrits dans un moment international de renouvellement des mobilisations féministes. Donc, ne posez pas de questions à la fin de la présentation. Je vais prendre deux exemples pour revenir un peu là-dessus. Un exemple sur un mode d'action qui a été central dans ce renouvellement militant, c'est la grève féministe. Et puis, un motif de mobilisation aussi central, c'est la question des violences de genre. Je vais commencer donc par la grève féministe. Alors là, on peut en fait, ce qu'on voulait rappeler, c'est que la grève des femmes, c'est pas un mode d'action nouveau dans l'histoire des mobilisations de femmes féministes. Il y a eu des grèves des mères, des grèves de l'impôt, des femmes très investies. Et puis, il y a eu des expériences de grève féministe dès les années 70, notamment une en Islande en 75. Donc l'idée que les femmes doivent s'approprier le mot d'ordre de la grève, qui est un mode d'action central et dans un mouvement ouvrier, avait déjà été élaborée en fait dans les mouvements sociaux dès les années 70. Et l'idée au cœur donc, de la grève féministe, c'est ce que l'a évoqué Topine tout à l'heure, c'est le fait de rendre visible la place des femmes dans le salariat, mais aussi de rendre visible le travail des femmes qui n'est pas nécessairement salariée. Donc de rendre visible la question du travail productif et du travail reproductif, du travail du soin domestique qui est invisibilisé, dévalorisé et souvent subordonné. À partir de 2016, donc, on assiste à un renouvellement de ce motif de mobilisation, ce mode d'action autour donc, de la grève féministe. On est plusieurs cas dans le bouquin. Il y a une première grève générale donc des femmes en 2016 en Pologne pour protester contre un projet de loi qui bannissait l'avortement. Et dans le même temps, en 2016 aussi, en Argentine, les féministes argentines vont donc dénoncer le féminicide de Lucia Pérez et vont lancer un appel international à une grève internationale à l'occasion de la grève. Et c'est ce mouvement, cet appel, qui va en fait essaimer au niveau international et qui va remobiliser au niveau international les militants autour de ce mot d'ordre de la grève. Cet appel a notamment circulé dans l'État espagnol et en mars 2017, il y a eu une grève absolument massive dans l'État espagnol qui commence à minuit. Avec un concert de casseroles pour, et je cite, réveiller la société et les pouvoirs publics. Ce sont donc 5 millions d'Espagnols qui se mettent en grève à ce moment-là. Et l'appel international pour la grève féministe, il se constitue autour de 4 axes. La grève du travail, la grève étudiante et associative, la grève du care et la grève de la consommation. Donc finalement, c'est vraiment de mettre à l'arrêt toute la société. Encore une fois, en rendant visible la spécificité en fait, des femmes à la fois au sein du système capitaliste, mais aussi au sein du système patriarcal. Alors, dans ce moment de grève au niveau international, il y a des événements un peu connus, notamment la place des Argentines dans ce mouvement international a été assez visible, notamment parce que ça fait écho aussi aux mobilisations du droit à l'avortement, de la vague verte. En Argentine. Et puis il y a des grèves qui sont un peu moins connues, et notamment celle qui a eu lieu en Suisse le 14 juin 2019. Il y a eu une grève monstrueuse des femmes avec un astérisque en Suisse, avec des actions dans plein de villes de Suisse, une variété très importante de mobilisation, de mode d'action, de mode de lutte. Et puis des actions symboliques, notamment à 15h24, donc l'horaire où les femmes sont censées travailler gratuitement. Il y a eu des minutes de silence, des daïmes, etc. C'est une grève qui a été portée, et je trouve vraiment que c'est une mobilisation assez exemplaire à plusieurs niveaux. D'une part parce que se mettre en grève en Suisse, c'est pas si simple que ça. Je dis pas que ça l'est en France, mais l'histoire du mouvement ouvrier en Suisse est très différente, et il y a des blocages politiques et institutionnels très forts pour éviter la grève en Suisse. D'autre part, donc, s'approprier le motif, le mot d'ordre de grève, c'est déjà un acte symbolique au mouvement très très fort. Et par ailleurs, en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est que la grève, elle a été portée au sein des syndicats, des organisations syndicales, et à côté des syndicats. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'il y avait plein de militants féministes qui ont investi les syndicats, et notamment le syndicat des services publics, que la grève a été portée par les organisations syndicales. Mais ce n'est pas uniquement non plus au sein des syndicats que la grève a été portée, puisqu'il y a eu des comités, un peu comme l'Assemblée générale de la grève féministe, j'imagine, des comités pour la grève féministe qui se sont montés sur des lieux de travail, dans des villes, etc. Et c'est en fait par la fragmentation, mais aussi l'unité, enfin, la fédération de ces comités de grève, que la grève a été portée, a été réellement massive. Elle a été tellement massive qu'il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de strike washing, c'est-à-dire que les grandes entreprises aussi ont voulu s'approprier ce motif de grève pour l'édulcorer, enfin faire en sorte que ce ne soit pas trop subversif, disons. Donc certaines entreprises justement ont proposé d'arrêter le travail à 15h24. Certaines administrations publiques ont donné un congé aux femmes pour éviter qu'elles se mettent en grève. EasyJet a annoncé que les hôtesses pouvaient porter un badge donc pour montrer leur adhésion à EasyJet. Et IKEA a aussi invité le collectif à venir faire la promotion de la grève. Voilà. Et à tenir un stand. Donc c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le capitalisme peut se renouveler en s'appropriant des motifs militants et des mots d'ordre militants. Et là, on voit qu'après, les militants étaient maduques, et donc elles ont aussi œuvré pour réaffirmer ce que signifie véritablement une grève féministe, c'est-à-dire d'arrêter le travail et pas juste commencer un badge. Mais voilà, il y a eu ce phénomène-là face à l'ampleur de la mobilisation qui est assez intéressant. Alors pourquoi se mettre en grève? Donc les Argentines, elles ont écrit un appel où elles disent, et je cite, nous nous mettons en grève pour rendre visible le fait que tant que les tâches de soins ne sont pas une responsabilité de la société dans son ensemble, nous serons obligés de reproduire l'exploitation de classe et de domination coloniale entre femmes. Nous dépendons donc d'autres femmes pour travailler, nous dépendons d'autres femmes pour migrer, nous nous mettons en grève pour valoriser le travail invisible que nous faisons, construisant réseau, soutien et stratégie vitale dans des contextes difficiles ou de crise. Donc l'idée, voilà, c'est de rendre visible encore une fois la place qu'occupe le travail productif et reproductif dans la société et le fait que voilà, ça repose sur l'exploitation, la domination de genre, mais aussi une exploitation et une domination coloniale. À ce titre, donc, la question de qui est le sujet de ces mobilisations féministes est aussi posée. Et les Argentines donc, disent justement que nous embrasse les femmes, les lesbiennes, les trans et toutes les identités dissidentes du cis-hétéro-patriarcat. Donc la question, en fait, c'est pas juste de poser le sujet femme comme un sujet homogène, univoque, mais bien d'essayer de rassembler aussi toutes les diversités, la diversité des identités qui peuvent se reconnaître comme des sujets dominés par les questions de genre et de domination. En Suisse, pour poser, enfin, encore une fois, présenter ce mouvement de façon inclusive, les tracts étaient systématiquement, donc, quand il y avait le mot femme, il y avait un astérisque qui était apposé à la femme, pour rappeler que justement, ça englobait toutes les minorités de genre et pas seulement les femmes. Cette question donc, de l'inclusion, elle est posée dans plein de mouvements, en Belgique aussi, ça a été le cas. Il y a une commission donc inclusivité qui a été fondée justement pour réfléchir et déconstruire les rapports de pouvoir au sein du mouvement. Je vais respirer dans un nouveau. phrase féministe pour présenter le rôle, la centralité donc, du travail subordonné, exploité des femmes et des minorités de genre dans la société. Et donc, il pense comme centrale la question de l'intersectionnalité, et je reviendrai à la fin. Je vais maintenant revenir sur le deuxième point, c'est-à-dire la place de la lutte contre les violences qu'on appelle sexistes et sexuelles, violences de genre, violences masculines, etc., dans ces mobilisations. Alors, en Europe et en Amérique du Nord, la concentration ou la focalisation sur des revendications autour des violences, autour de la lutte contre les violences, est souvent marquée ou posée au mouvement MeToo. Je vais en dire deux mots pour rappeler un peu l'histoire de cette mobilisation qui démarre, et ça va être mis en question justement par d'autres militantes, aux États-Unis, dans un contexte de remobilisation. Et ça, je pense que c'est important de s'en souvenir, c'est que MeToo donc, apparaît en octobre 2017, lorsque Alyssa Milano, donc l'actrice américaine, lance un tweet au moment où Harvey Weinstein, donc, le producteur hollywoodien, est accusé par plusieurs femmes de viol et de d'agression sexuelle. MeToo qui veut dire donc moi aussi. Il y a un précédent en fait à MeToo, et ce précédent c'est notamment la remobilisation féministe très forte au moment de l'élection de Donald Trump. Donc là encore, c'est aussi dans un contexte de lutte contre l'autoritarisme et contre la montée du fascisme en fait, à causer bien sûr à un discours très sexiste où le président italien avait quasiment revendiqué le fait de commettre des agressions sexuelles envers des femmes, que des féministes s'étaient remobilisées et que la question du sexisme était aussi portée, la lutte contre le sexisme était portée dans l'espace public. Donc ce tweet MeToo est ça provoque une déferlante avec des millions de retweets en 24 heures. Les retweets qui décrivent parfois des faits précis, ou alors qui cherchent simplement, entre guillemets, à montrer une forme de solidarité, de souligner en fait par le moi aussi, de souligner un nous, de personnes qui ont subi, qui ont témoigné, en tout cas, dont la vie est marquée par l'expérience des violences. Mais il faut revenir un peu en arrière, encore une fois, puisque MeToo, ça a été aussi revendiqué par d'autres personnes qu'Alyssa Milano, et notamment par une militante noire, Tamara Burke, qui avait lancé donc 10 ans auparavant un mouvement MeToo, son hashtag, son Twitter, et qui en fait, au moment où donc, MeToo a été lancé sur Twitter par Alyssa Milano, donc, Tana Rabeur a rappelé qu'elle avait lancé un mouvement similaire, et ce qui a souligné aussi, encore une fois, les pouvoirs et domination au sein des femmes, dans la mesure où, voilà, à partir du moment où une actrice blanche, très connue dans son mouvement, ben, ça a un retentissement mondial, et une femme noire qui travaille autour de la question des violences sexuelles et de la violence qui n'a pas le même capital social que Alyssa Milano, lance un mouvement similaire, et bien, ça interroge encore une fois qui peut parler, qui a la parole dans l'espace public et surtout qui est entendu en fait dans l'espace public. Ce mouvement MeToo, il montre aussi donc la place de ce que certaines collègues ont appelé le féminisme de hashtag, c'est-à-dire le fait que les mobilisations féministes peuvent se concentrer autour des réseaux sociaux d'une part, autour d'un mot d'ordre, d'un hashtag, quoi. Avec notamment donc, et des déclinaisons différentes de MeToo, donc la Paris en Chine, Yotambien en Espagne, mais aussi Nyoma Menos ou Manuela Di Meno en Italie. Donc on a une diffusion, une déclinaison des hashtags qui en fait révèle d'une part voilà, l'appropriation locale de ces hashtags, mais qui souligne aussi la manière dont les réseaux sociaux façonnent le militantisme. Puisque les collègues qui travaillent justement sur le féminisme de hashtag rappellent que les plateformes, en fait, elles créent aussi un cadrage narratif, une manière de se présenter, et aussi elles reproduisent voilà, les rapports de pouvoir entre militantes, entre femmes, et entre minorités de genre, certaines ayant beaucoup d'écho et d'autres pas du tout, certaines expériences étant visibles et d'autres pas, et certaines expériences étant audibles et d'autres pas. Mais MeToo, ce n'est pas juste donc, un événement, ce n'est pas juste voilà, Alyssa Milano qui lance ce tweet et qui ensuite a une répercussion au niveau international, c'est entendu comme un moment par des collègues, notamment Michel Dantani Fournel, Lydia Pierre-Pavard et Florence Rochefort, qui ont publié le livre Ne nous libérez pas, on s'en charge, qui en fait est une histoire de mobilisation communiste en France, donc qui parle du moment MeToo par comparaison avec le moment 68 pour montrer justement une période de mobilisation qui en fait souligne une myriade de formes de mobilisation, de modes d'action autour d'une séquence historique. Du point de vue temporel, donc un moment élargi, d'une part parce que je disais, donc on pourrait penser que MeToo c'est 2017, en octobre 2017, avec Samuel Mouton, etc. Déjà, donc, avec des antécédents, avec la Women's March aux États-Unis, avec Tamara Burke, en 2006. Et puis, au niveau international, dès lors qu'on décentre le regard et qu'on ne regarde plus seulement aux États-Unis, et bien, on se rend compte aussi qu'il y a des ancêtres à ce moment, notamment en Égypte, où des militantes féministes ont revendiqué en fait la maternité de MeToo, puisque en 2011, donc au moment du printemps arabe et des mobilisations sur la place Tahrir, des militantes qui étaient donc opposées au régime autoritaire ont aussi rendu visible les violences sexuelles et de formes de harcèlement qu'elles subissaient d'une part qui étaient commises d'une part par l'armée, mais aussi par d'autres militants, donc des militants investis contre l'autoritarisme de l'État. Ça a donné lieu donc à des organisations pour lutter contre ces agressions sexuelles, ces violences, ces viols, et qui se composaient, qui déclinaient de façon un peu variée, notamment en visibilisant la question, en portant la question des violences sexuelles commises par des militants et par l'armée, en proposant un soutien psychologique, et en cherchant aussi à promouvoir des politiques publiques, à réformer en fait le droit autour du harcèlement sexuel et de violences sexuelles. Et donc en 2018, je disais, parce que justement il y a eu cette mobilisation très forte autour de la place Tahrir et autour donc des violences sexuelles, Yasmine El Arifa dans The Nation revendique donc le fait que MeToo n'est pas du tout né à Los Angeles, mais être au Caire. Voilà. Il y a d'autres précédents aussi, donc encore une fois, si on décentre le regard et qu'on met un regard moins ethnocentré et tourné vers l'international, on peut penser aussi que Miuna Menos, donc en 2015, qui a rassemblé 300 000 personnes en Argentine, et aussi le participe de ce contexte de forte mobilisation et de forte visibilisation de la lutte contre les violences. Donc les violences, dans ce cadre, les violences sexuelles, les violences conjugales, sont centrales dans les revendications dans différents contextes. Donc en Argentine, je disais, c'est un féminicide qui lance le mouvement de grève en 2016. En Italie aussi, c'est encore une fois le féminicide de Sara Di Pietrantonio en 2016 par son ex-conjoint, qui contribue aussi à lancer un mouvement similaire de femmes et à dénoncer donc les violences, a lancé une manifestation à Rome d'ampleur, encore une fois, qui rassemble 200 000 personnes. Ou encore, donc, en Palestine, il y a un article donc, qui revient sur la Palestine, et là encore, un meurtre d'une femme à Bethléem en 2019 a donné lieu à de grandes manifestations dans plusieurs villes. Mais la question des violences est à la fois centrale, mais ce n'est pas la seule question qui est posée, encore une fois, puisque ces mobilisations, elles font écho, elles permettent aussi de traiter d'autres sujets. Et d'autres revendications, en Argentine, il y a bien sûr l'IVG qui est centrale, mais c'est aussi par le mouvement Miuna Menos qui a eu des fronts féministes très forts contre les libéralismes et contre notamment les conférences de l'OMC. Ces mobilisations, elles sont à la fois transnationales et locales. Transnationales au sens où les mots d'ordre ont circulé donc, par les réseaux sociaux, comme je le disais, avec voilà, ces hashtags, etc. Mais aussi, il y a des modes d'action qui ont pu circuler, notamment, je ne sais pas si vous avez vu, mais la performance des féministes chiliennes de la Stésis qui a circulé. Voilà, donc c'est une performance artistique avec un chant autour d'un violeur et qui a circulé en France et dans d'autres pays du monde. C'est un mouvement aussi qui a permis voilà, d'avoir des répercussions et de relancer les mobilisations autour notamment des violences. En France, il y a notamment nous toutes et nous aussi qui a redynamisé en fait, la politique contestataire contre les violences masculine et violence de genre en France. Et puis, voilà, il y a des associations aussi locales. Et il y a notamment un article qui revient sur le contexte chinois et qui montre le rôle de la diaspora chinoise dans la mobilisation autour du harcèlement sexuel en Chine. Et pour conclure, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et j'ai parlé assez longtemps au final, l'idée de ce dossier, c'était encore une fois de présenter ces exemples de mobilisation avec pas mal d'articles qui reviennent sur l'expérience de femmes minorisées, de classes populaires notamment, de femmes racisées, de personnes lesbiennes, trans. Et l'idée, voilà, c'est de montrer à la fois la complicité de ces identités, de ces expériences, de ces conditions de vie, mais aussi de montrer en fait. Ce que le mot d'ordre d'intersectionnalité peut donner en pratique. Puisque voilà, la notion d'intersectionnalité, c'est une notion que décriée en France, avec voilà, des débats dans mon académique autour de son usage, de son opérationnalisation du point de vue scientifique, mais aussi des mobilisations réactionnaires contre le dirotisme, ce genre de choses. Et là, l'idée, donc, c'est de voir aussi, en fin de compte, il s'agit uniquement de construire des mobilisations qui incluent toutes les formes d'oppression et toutes les expériences minorisées. Je vais conclure là-dessus. Merci à vous.
Alors, on prend deux, trois questions à l'instant.